Où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais reprendre la série que je vous avais proposée, annoncée sur l'histoire de l'architecture moderne et de l'architecture du XXe siècle. Et j'avais fait une brève introduction sur, on peut dire, sur l'histoire de l'art en général. Alors, cette histoire de l'architecture n'est pas foisonnante avec les différents courants, les dates, un grand nombre d'architectes qui ne seraient pas hiérarchisés, classés, mais j'ai fait un choix, on peut le qualifier d'arbitraire, de quatre figures majeures de l'architecture. Et on peut dire que au-delà de mes goûts personnels, je ne sais pas si cela rentre vraiment en compte, mais il s'agit des architectes qui ont marqué, qui ont été les plus influents, on peut dire, sur l'architecture mondiale, et c'est ce qui me paraît la chose la plus déterminante, au-delà justement des goûts personnels de moi ou de divers. Alors, je voudrais aussi ne pas tomber dans un excès d'appellation, de courant avec des arborescences complexes. D'abord, la radio ne s'y prête pas et on va donc voir dans la biographie ce qui est important, c'est justement à la fois le rôle, la vie par rapport à ces influences et ce qui me paraît le plus original et que j'ai, on peut dire, redécouvert en proposant cela, c'est quelque chose qui m'était, on peut dire, passé sous le nez dans un exercice que j'avais déjà pratiqué en tant qu'enseignant en architecture, en histoire de l'architecture et l'histoire de l'art. C'était les substrats idéologiques et religieux essentiellement, c'est-à-dire qui l'imprégnation qui est faite par l'enfance, par la religion, par les origines, et ce sont des choses qui ne sont pas évidente, peut-être, mais en tout cas qui ne sont jamais mentionnées dans les histoires de l'architecture, en tout cas. L'histoire de l'art, je pense pas non plus, parce que on est plutôt sur les influences dans la vie. Alors on dit, il a rencontré un tel, il a visité, par exemple, d'une manière générale, on dit Picasso est allé au musée de l'Homme et donc ça lui a fait une révélation. Donc on a eu les demoiselles d'Avignon et on peut dire que l'esthétique occidentale a basculé. Alors, évidemment, on pourrait inverser la question, pourquoi il est allé au Musée de l'Homme, et puis là aussi, pourquoi il a été influencé, parce que de nombreuses personnes peuvent voir la même chose sans être influencées, et nous-mêmes, nous pouvons avoir, au cours de nos pérégrinations et des influences que l'on peut avoir diverses, être confrontés à des choses différentes, mais c'est ce qui est important. Pourquoi justement nous allons choisir cela? Donc le préambule du préambule, ça serait justement ce tournant du 19e au 20e siècle, et quand j'avais énoncé ce choix des quatre architectes préalablement, on m'avait dit, et pourquoi pas, l'architecte Frank Lloyd Wright. Alors, Frank Lloyd Wright, effectivement, est considéré comme le père de l'architecture moderne et une figure majeure. Mais c'est une figure du 19e 19e siècle. Alors, je l'avais limité volontairement au 20e siècle, et il est né en 1886, c'est-à-dire qu'il a, il a vécu le 19e siècle, et c'est un architecte qui me paraît être un architecte très important, mais qui est un architecte de la transition. C'est en fait l'architecture qu'il fait, et on ne le voit pas très bien par rapport aux œuvres de la fin de sa vie, puis c'est quelqu'un qui a réalisé énormément d'œuvres. Il a bâti 400 bâtiments, ce qui est évidemment considérable, on, sans tenir compte évidemment des projets non bâtis. Mais 400, c'est un chiffre énorme, et puis il s'agissait de projets personnels, c'est-à-dire il est dessiné lui-même, on a les témoignages, etc. Donc, c'est une vie très longue et une vie très prolifique. Alors, évidemment, au cours de sa vie, il y a des changements. Alors, c'est une figure très importante, mais il est à la transition. C'est-à-dire que quand on voit ces bâtiments dans le réel, et on n'en voit pas en Europe, mais aux États-Unis, ces bâtiments, ils sont tout de même marqués par l'esprit 19e siècle. Ce n'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire qu'il y a une qualité de travail, une qualité de détail dans les vitraux, dans la menuiserie que l'on va retrouver, par exemple, en Europe, chez Gaudi, chez Horta, Van de Velde, dans le mouvement anglais Art and Craft. En fait, c'est toute une manière d'appréhender l'architecture et ses détails, et aussi son esthétique, et donc il est à la transition, parce qu'à la fois il a à l'intérieur ses détails qui ne sont pas modernes entre guillemets, et donc son architecture, elle est ambivalente. Alors, pour le raccorder à Mies van der Rohe et l'architecte qui vient, il avait fait en début dans des années 1900 une exposition ou une exposition itinérante qui avait été dans les grandes villes d'Europe, à Berlin certainement, au Paris, et évidemment c'était des expositions pour professionnels. Et on avait vu ces grands toits débordants et qui donnaient l'impression justement d'être la modernité qui allait naître, c'est-à-dire des grands porte-à-faux en béton. En fait, c'était un peu un malentendu positif, puisqu'en fait la suite a montré qu'on pouvait s'en abstraire. Il s'agissait en fait de prouesses des charpentiers américains, où il y a une tradition du travail du bois assez remarquable, et qui faisait que on pouvait avoir des grands toits en avancée sans poteaux intermédiaires, qui donnaient tout à fait l'impression d'être avec des structures métal ou béton armé, et donc il y avait par rapport à cela une illusion de matériaux modernes, attendu qu'il s'agissait, on peut dire, sur des prouesses du 19e siècle et de la tradition. Alors, revenons donc à cet architecte, Mies van der Rohe. Alors, d'abord, je vais lever une ambiguïté par rapport à lui, parce que son nom, parce que certains l'appellent van der Rohe, croyant que c'est que Mies est son prénom. Alors, le nom, c'est Mies, et son prénom, c'est Ludwig. Et pour la petite histoire, Mies est un mot qui, en allemand, est un mot assez négatif. Ça veut dire assez laid, ou je sais pas. Enfin, c'est un mot négatif, et on comprend que quelqu'un qui veut être architecte et travaillant pour la beauté du monde, c'est un peu handicapant. Donc, il avait sa mère s'appelait Rohe, R-O-H-E, et donc il a collé les deux noms, et puis il s'est inventé un titre nobiliaire Van der, alors il n'avait pas mis Von, mais il avait mis Van, qui rappelait un nom hollandais, mais il n'avait aucun rapport avec la Hollande, parce que il voulait pénétrer les milieux, on peut dire, raffinés d'argent, c'est-à-dire les bons clients pour lui, donc il fallait qu'il sorte de son nom un peu misérable. Et puis aussi, il faut rajouter ses origines était modeste. Et là, on va voir l'importance de cela dans sa vie. Il est né donc à Aix-la-Chapelle et son père était un ouvrier, artisan, tailleur de pierre et voué à la restauration de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Alors, je vous montrerai justement le rapport et l'opposition qu'il y a entre l'architecture ancienne, justement, et cette architecture moderne que l'on pense être justement totalement opposée à l'architecture ancienne. Et ce qui est intéressant, du moins ce que je vais démontrer justement, c'est la continuité culturelle et que cette pseudo-coupure, en fait, elle est pas si coupure que cela et elle va puiser justement dans le fond ancien de chacun d'entre nous. Alors, notre Ludwig Mies, comme je vous disais, il a pas fait d'école d'architecture, il a été apprenti, bon, parce que je pense que sa famille n'avait pas les moyens de lui faire des études supérieures, et il a été donc employé pour dessiner chez un staffeur. Vous voyez ce que c'est un staffeur? C'est quelqu'un qui fait des décorations en stuc, en plâtre. Surtout, il s'agit d'une période qui est la fin du 19e, le début du 20e. Donc, il est né en 1886. Vous voyez donc, c'est la charnière entre les deux siècles. Et puis, il va comme apprenti dans deux cabinets d'architecture connus, Bruno Paul. Il va à Berlin, donc il quitte sa ville un peu provinciale d'Aix-la-Chapelle. Et puis aussi, un architecte qui est plus connu que Bruno Paul, c'est Peter Behrens, et dont si vous regardez les bâtiments, c'est vraiment l'architecture, justement, de ce style qu'on peut appeler aussi art déco, mais c'est ce style début du XXe siècle et qui simplifie les décors, est tout de même une architecture qui est en continuité avec l'architecture classique. Donc, sans s'étaler sur justement cet apprentissage qui fait qu'il a tout de même, en tant qu'apprenti, une solide formation très constructive, et la caractéristique de ses projets, qu'il va commencer très rapidement, donc il fait deux maisons, je pense, qui sont dans le style de Peter Behrens, c'est-à-dire ce style de cette architecture un peu germanique et un peu art décoratif qui ne peut pas être qualifié en tout cas d'architecture moderne, mais c'est un très bon apprentissage. Je pense qu'il y a beaucoup d'architectes qui commencent par cela, par des maisons individuelles, et c'est une manière d'apprendre et de se confronter à la réalité du métier. On ne commence pas par faire des cathédrales. Donc cet apprentissage, et qui fait que il aura tout au long de sa vie, on peut dire, une maîtrise totale, même avec les innovations techniques qu'il fera, on peut dire qu'il a une maîtrise totale de son métier. Alors on verra avec les architectes suivants, et notamment Le Corbusier, où justement les débuts sont beaucoup plus chaotiques, et ça sera intéressant pour un contemporain, les âges sont à peu près les mêmes avec Le Corbusier, même si les quatre architectes que je vous ai choisis sont par ordre de chronologique de naissance. Mais enfin là, il s'agit effectivement de deux architectes qui vont être assez proches du même âge, puisque d'ailleurs, ils travailleront tous les deux en même temps, une brève période où Le Corbusier, lors de ses pérégrinations en Europe, ira dans l'atelier de l'architecte Peter Behrens. Il y a des photos qui existent où on voit justement les deux futurs grands maîtres de l'architecture moderne qui seront photographiés côte à côte. Alors, le Miss Vandéraud, encore une fois, nous sommes à la radio, mais je pense qu'il est facile aujourd'hui, avec un téléphone ou un smartphone, de regarder à travers les réseaux Wikipédia ou tout ce que l'on voudra, de voir les œuvres caractéristiques de cet architecte. Et pour nous, Toulousains, Occitans, en tout cas, nous avons la possibilité d'aller voir un bâtiment emblématique qu'il a construit à Barcelone et qu'il a construit pour l'exposition universelle de 1929, et on peut dire qui est le bâtiment qui va lui donner la célébrité. Alors, il est évident que c'est pas arrivé tout seul. Il avait déjà fait des réalisations, et notamment une maison qui s'appelle pour des riches industriels de la haute société berlinoise qui seront les Tugendhat, et une maison tout à fait révolutionnaire et avec une très grande maîtrise technique. Et notamment des grands vitrages qui s'escamotaient dans le sol et une utilisation de matériaux qui vont être les matériaux contemporains, le béton armé, le fer et en structure, c'est-à-dire avoir des colonnes métalliques et apparentes et non plus masquées comme on a pu le voir dans cette période de transition où on a des structures métalliques et tout en gardant un décor 19e, mais là, on va avoir, on peut dire, une vérité dans l'emploi des matériaux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, surtout justement par rapport à la période précédente avec ce que je vous disais, cet architecte de transition où on voit l'évolution au cours de sa carrière qui était Frank Lloyd Wright, l'architecte américain. Alors nous allons marquer une pause musicale et pour reprendre Miss Vandéraud, l'architecte allemand-américain. Revenons donc à Barcelone pour ce pavillon de l'Allemagne. Donc il s'agit de la République de Weimar. Donc nous sommes avant le Troisième Reich. Et ce bâtiment est tout à fait, c'est un bâtiment inutile, puisque ces pavillons, ils ne sont que des, on peut dire des étalages de savoir-faire ou de style. Et là, justement, la République de Weimar montre son avance esthétique et aussi la maîtrise technique, l'audace technique et la perfection de la schöne Qualität des artisans allemands. Alors, ce pavillon, d'une manière assez étrange, il a été détruit comme souvent les pavillons, et puis on ne sait pas où le démontage des pièces, et il y avait des pièces magnifiques avec du marbre, de l'onyx, ça a disparu. Et donc les Espagnols, les architectes espagnols, ont pu convaincre les politiques de reconstruire à l'identique. Alors il y avait des documents, il y avait aussi des personnes qui étaient encore vivantes, qui avaient participé à ce bâtiment. Donc on a reconstitué à l'identique, comme on peut le voir actuellement, avec la sculpture, la pièce d'eau, les marbres, ce pavillon. Ce pavillon, il était, comme je vous disais, un pavillon non fonctionnel, uniquement une démonstration. Et pour cela, il a créé aussi le mobilier avec une chaise qui est très connue, qui s'appelle justement le fauteuil ou la chaise Barcelone, et dont le rôle était uniquement de recevoir le roi d'Espagne lors de la visite inaugurale du pavillon, qui puisse s'asseoir sur ce fauteuil. Donc, Mies van der Rohe avait décidé absolument tout, choisi absolument tout, et aussi la couleur des rideaux, et même les systèmes d'agrafe des rideaux. C'est d'ailleurs cette perfection qu'il aura tout au long de sa vie. C'est-à-dire perfection des matières et des couleurs. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que c'est intéressant à voir, parce que justement, c'est une architecture qui est d'apparence glaciale et froide, mais dans la réalité vécue, dans ce que l'on peut voir, c'est très, on peut dire, charnel, par l'emploi du travertin, l'emploi de l'onyx, du métal et du métal en acier inoxydable, dont les brillances, la pièce d'eau qui fait des reflets, la statue qui n'est pas une statue, on peut dire, abstraite, mais qui est une statue réaliste en bronze, et c'était tout à fait intéressant l'opposition, et comme je vous disais aussi, des rideaux épais en velours, et c'est cette combinaison que l'on va retrouver. Alors, le style international qui va s'inspirer de Mies van der Rohe, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que Mies van der Rohe va être très influent au niveau des architectes internationaux. Bon, j'en parlerai peut-être un peu plus dans ma conclusion, mais on peut dire que c'est copistes, ces copieurs, je ne sais pas comment dire, ils vont prendre la facilité, ils vont prendre la simplicité, mais une simplicité sans justement prendre en même temps la complexité et justement les oppositions entre des matériaux qui sont froids et des matériaux qui sont chaleureux. Donc on aura ce style international qui sera un style dépouillé et assez glacial, et aussi très certainement des critiques de cela, et on verra ça au cours des émissions suivantes. Alors, donc, revenons au style et à l'expression de Mies van der Rohe. On peut dire que c'est surtout aux États-Unis, et je vais vous parler donc du passage entre l'Allemagne et les États-Unis, Donc il y a, après justement cet épisode du pavillon de Weimar, il y a la chute de République de Weimar. Bon, je vais faire un cours sur ces sujets, je ne suis pas un historien pour rappeler l'histoire de l'Allemagne, mais tout le monde sait la montée de l'hitlérisme, des nazis, et les choses deviennent un peu plus compliquées pour beaucoup de créateurs. Donc on va avoir non seulement les créateurs qui seront les juifs qui vont être obligés de partir, ou en tout cas on leur enlèvera tous les postes possibles qui sont à l'académie, qui sont d'enseignants, et donc il y a une chasse aux juifs, mais également un peu plus large aussi aux porteurs d'un mouvement moderne. Alors les choses sont assez compliquées parce que dans la première partie, le Troisième Reich et Hitler hésitent entre un côté moderne qui pourrait aller avec sa volonté d'être de montrer les machines, les progrès techniques du Troisième Reich, et puis un autre côté qui serait de respecter la tradition. Donc le nazisme n'est pas un retour aux valeurs entre guillemets aux valeurs du pan-germanisme, c'est aussi de montrer la modernité. Et donc, cette ambiguïté est un combat qui se passe entre des factions. Et au final, Hitler arbitrera, puisque on fait miroiter à Mies van der Rohe, qui devient directeur du Bauhaus. Alors le Bauhaus, je vous le rappelle, c'est une école mélange tous les arts plastiques, d'ailleurs un peu plus, puisqu'il y a aussi de la danse, qui met sur le même plan l'architecture, la peinture, mais aussi, de même que le mouvement Art and Craft en Angleterre, de montrer aussi l'artisanat, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui le design d'objets, et aussi la mise en œuvre des objets, et aussi le tissage, enfin tout ce qui est considéré avec d'une manière un peu péjorative, le Bauhaus est une école de création absolument prolifique et très importante, mais aussi très marquée à gauche, et donc on va mettre Mies van der Rohe, qui lui n'est pas spécialement marqué ni à gauche ni à droite, mais en tout cas qui est sans équivoque sur une expression moderne de son art, qui est l'architecture. Alors on peut dire que Hitler, certainement après moult hésitations, prend le parti d'une architecture qui va être néoclassique, avec notamment l'architecte Speer, que l'on connaît, qui devait être ministre de la guerre et qui fait ces énormes bâtiments et ce délire néoclassique, tout de même en laissant en sous-main les bâtiments qui vont être les hôpitaux aux architectes modernes. Mais en tout cas, la position d'une esthétique officielle sera pas celle-là, en tout cas. Donc, Mies van der Rohe va avoir pour lui des craintes. On lui reprochera d'ailleurs son nom, et comme je vous ai raconté tout à l'heure, c'était en fait une fiction inventée. Et on lui dira, mais vous n'êtes pas un vrai arien puisque vous avez un nom hollandais. Comme quoi, des fois, il vaut mieux garder son nom. Et donc, il décidera, comme beaucoup d'architectes du Bauhaus notamment, de partir aux États-Unis, et ça sera donc la partie, on peut dire, la plus importante de son œuvre. Alors, le départ en 38 aux USA, Aux USA, il hésite un moment, mais on lui propose dans une école de Chicago qui s'appelle l'Institut technologique de l'Illinois, enfin Illinois en anglais, donc AIT. Et c'est une école pas très connue. Alors Gropius, lui, on lui offre un poste à Harvard. Alors Gropius, qui était, on peut dire, le fondateur du Bauhaus, était, lui, à l'opposé de Mies van der Rohe, une figure de la grande bourgeoisie, marquée, lui, politiquement à gauche, et on va lui offrir un poste académique dans l'université la plus prestigieuse des États-Unis. Donc, notre Mies, lui, partira dans cette école, mais on lui... Oui, il hésitera un moment, mais il hésitera un an, mais on lui dit, vous pourrez... et ça, c'est tout à fait intéressant, faire les programmes que vous voulez, et de plus, vous aurez à reconstruire le campus avec votre architecture, et donc vous pourrez créer votre agence, ce qui était quand même intéressant, même si Chicago n'était pas, même si Chicago est une ville importante au niveau de l'architecture, mais n'avait pas évidemment les prestiges de Boston ou de New York. Boston, où l'université d'Harvard réside. Donc, il va y avoir donc une carrière américaine, et ce dont je voulais vous parler dans cette carrière américaine, c'est que Mies van der Rohe va développer aux États-Unis un style qui va être, on peut dire, minimaliste. C'est-à-dire qu'il va construire à partir d'une forme très simple, qui est la forme du rectangle ou du carré. Il va perdre les caractéristiques du pavillon le pavillon de l'Allemagne à Barcelone, qui a des murs qui dépassent avec des toitures, en fait il n'est pas qui est dans une géométrie complexe et ouverte, et il va revenir à une forme beaucoup plus on peut dire classique, même si ce mot est contradictoire avec le moderne. Et c'est là où je vais en venir, c'est-à-dire que certains disent aux États-Unis il a perdu toute sa créativité, mais je pense qu'au contraire, il va s'épanouir aux États-Unis pour différentes raisons. D'abord, c'est un pays qui est un pays riche en développement, qui n'est pas évidemment, qui n'a pas l'industrie de guerre du Troisième Reich, et pour lequel on peut trouver, des sponsors pour une architecture qui va être assez spectaculaire, raffinée, et ses premiers bâtiments aux États-Unis seront une maison qu'il fera pour Madame Farworth, qui est une très riche médecin spécialiste, et qui est cette maison blanche rectangulaire que l'on connaît, je pense, et que vous pouvez regarder sur Internet. Et puis un bâtiment aussi qui est emblématique à New York, qui est le Seagram Building. La société Seagram, c'est une société qui vend des alcools, ce bâtiment que l'on peut voir à New York sont des bâtiments absolument remarquables et qui vont marquer, on peut dire, toute une génération, non seulement d'architectes américains, mais on peut dire d'architectes mondiaux. Alors, où je vais en venir, c'était en préambule, c'est cette influence qui peut y avoir et qui paraît contradictoire entre le fils du tailleur de pierre d'une cathédrale et puis cette architecture totalement métallique moderne, c'est-à-dire cette négation du passé. Eh bien, cette négation, elle est peut-être qu'en apparence. Et si on regarde bien, et c'est facile aujourd'hui, même si vous n'êtes pas allé, comme moi d'ailleurs, à Aix-la-Chapelle, voir la cathédrale, on se rend compte d'abord c'est une cathédrale gothique. Alors, vous vous rappelez bien que le gothique est une architecture dans laquelle la structure est apparente. Elle est d'ailleurs relativement fragile, aussi parce que il faut la maintenir comme les colonnes métalliques, il faut aussi les repeindre, le métal doit être entretenu. Et il y a aussi une architecture, on peut dire, de la vérité. C'est-à-dire que la structure est montrée de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Et de plus, on a une structure qui laisse passer la lumière. Donc la séparation entre le dedans et le dehors est beaucoup plus fragile que dans les bâtiments romains et aussi de l'architecture classique, évidemment dans une même continuité historique d'une enveloppe épaisse avec des fenêtres perçant des murs et puis des intérieurs qui sont différents de l'extérieur. Donc on a ce rapport d'une architecture de vérité et aussi ce qui est le plus compréhensible, c'est-à-dire que cet architecte venant d'une famille pauvre, d'une famille modeste et n'ayant pas fait d'études, n'ayant pas été confronté, on peut dire, avec l'art, n'ayant pas non plus voyagé. Et il s'est nourri dans son enfance. Et quand vous voyez les images de la cathédrale, vous voyez que justement cette cathédrale est très très riche. Il y a des ors, il y a dans justement avec toute cette lumière qui pénètre avec les vitraux. Mais il y a des marbres de différentes qualités, des onyx, il y a justement ces marbres dorés, ces marbres verts, et que Mies va employer dans ces bâtiments. Donc c'est tout à fait intéressant. Donc que justement c'est notre premier architecte moderne est un architecte donc catholique. Donc je ne sais pas s'il était croyant lui-même ou pas, mais ce qui est important, c'est justement cette influence de la religion dans ses bâtiments et aussi dans son idéologie, dans cette vérité qui apparaît dans les édifices, eh bien, on va donc la retrouver dans une traduction qui va être moderne. Et je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été noté dans les histoires et que je vais m'efforcer de mettre en valeur dans les différents protagonistes de cette histoire de l'architecture. Alors, pour conclure, je vous invite à regarder ces bâtiments, si vous avez l'occasion évidemment de les voir en vrai, comme je vous disais, celui de Barcelone est le plus accessible. Il y a la Villa Tegedat à Berlin, il y a aussi à Berlin son dernier bâtiment qui est le National Gallery, qui est son dernier bâtiment bâti et qu'il bâtit et qu'il revient en Allemagne pour construire son dernier bâtiment à la fin de sa vie. Et évidemment, si vous allez à New York, le Sea Grand Building est un bâtiment extraordinaire et que les photos ne montrent pas, parce que c'est le propre des grandes œuvres d'être un choc, même si on a un reportage photographique eux-mêmes filmé, parce que on voit New York, même ce bâtiment apparaît dans de nombreux films, mais dans la réalité il y a un rapport entre la manière dont les gens s'assiedent sur les bancs avec une pièce d'eau et le rapport du bâtiment à la ville. Bon, je vais pas vous le décrire, mais c'est vraiment vraiment à voir. Il y a aussi à Chicago les bâtiments de Mandero avec le centre civique qui sont évidemment remarquables, et à Toronto aussi il y a trois bâtiments qu'il a créés, et là aussi les photos ne le montrent pas. Si vous avez l'occasion même de rentrer dans le bâtiment, on peut y rentrer, c'est des bâtiments de bureau avec des halls d'entrée, et je veux dire, moi en tant qu'architecte j'ai on peut dire, je me suis inspiré de certains détails dans mes réalisations, et je pense que je rends hommage dans ce maître de l'architecture de m'avoir inspiré le respect et le sens des détails. Voilà, donc pour cette semaine, c'était. Je vous invite donc à regarder Animage, et puis si vous avez l'occasion de voyager, d'aller voir ces bâtiments. C'est la fin de cette émission, et Je vais vous annoncer donc la semaine prochaine, ce sera donc Le Corbusier. C'était Où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Je remercie Léo qui était à la technique et je vous dis à la semaine prochaine.